Namouna, chant deuxième.
Qu'est-ce que l'amour? L'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Chant fort. Eh bien, en vérité, les sourds vont maudire. Quand on n'a pas d'argent, c'est amusant d'écrire. Si c'est un passe-temps pour se désennuyer, il vaut bien la bouillotte. Et si c'est un métier, peut-être qu'après tout, ce n'en est pas un pire que fille entretenue, avocat ou portier. J'aime surtout les vers, cette langue immortelle. C'est peut-être un blasphème, et je le dis tout bas, mais je l'aime à la rage. Elle a cela pour elle, que les sots d'aucun temps n'en ont pu faire cas, qu'elle nous vient de Dieu, qu'elle est limpide et belle, que le monde l'entend et ne la parle pas. Eh bien, sachez-le donc, vous qui voulez sans cesse mettre votre scalpel dans un couteau de bois, vous qui cherchez l'auteur à de certains endroits comme un amant heureux cherche dans son ivresse sur un billet d'amour les pleurs de sa maîtresse et rêve en le lisant au doux son de sa voix, sachez-le, c'est le cœur qui parle et qui soupire lorsque la main écrit, c'est le cœur qui se fond. C'est le cœur qui s'étend, se découvre et respire, comme un gai pèlerin sur le sommet d'un mont. Et puis si vous trouvez, quand vous en voudrez rire, à dépecer nos vers, le plaisir qu'ils nous font, qu'importe leur valeur. La muse est toujours belle, même pour l'insensé, même pour l'impuissant, car sa beauté pour nous, c'est notre amour pour elle. Mordez et croassez, corbeaux, battez de l'aile, le poète est au ciel, et lorsqu'en vous poussant, il vous y fait monter, c'est qu'il en redescend. Allez, exercez-vous, débrouillez la quenouille, et soufflez-vous à faire un bœuf d'une grenouille avant de lire un livre et de dire « j'y crois », analysez la plaie et fourrez-y les doigts. Il faudra de tout temps que l'incrédule y fouille pour savoir si son Christ est monté sur la croix. Et depuis quand un livre est-il donc autre chose que le rêve d'un jour qu'on raconte un instant, un oiseau qui gazouille et s'envole, une rose qu'on respire et qu'on jette et qui meurt en tombant, un ami qu'on aborde avec lequel on cause, moitié lui répondant et moitié l'écoutant. Aujourd'hui, par exemple, il plaît à ma cervelle de rimer en xixin le conte que voici. Va-t-on le maltraiter et lui chercher querelle? Est-ce sa faute à lui si je l'écris ainsi? Byron, me direz-vous, m'a servi de modèle. Vous ne savez donc pas qu'il imitait Pucci? Lisez les Italiens, vous verrez s'il les vole. Rien n'appartient à rien, tout appartient à tous. Il faut être ignorant comme un maître d'école pour se flatter de dire une seule parole que personne ici-bas n'ait pu dire avant nous. C'est imiter quelqu'un que de planter des choux. Ah, pauvre la forêt qui ne savait pas lire. Quelle vigoureuse soufflette on seul a donné au peuple travailleur des discuteurs damnés. Molière t'écoutait lorsqu'il venait d'écrire. Quel mépris des humains dans le simple et gros titre rire dont il lui baptisait ses hardis nouveau-nés. L'esprit et les... Il ne te lisait pas, dit-on, les vers d'Alceste. Si je les avais faits, je te les aurais lus. L'esprit et les bons mots auraient été perdus, mais les meilleurs accords de l'instrument céleste seraient allés au cœur comme ils en sont venus. J'aurais dit aux bavards du siècle... À vous le reste. Pourquoi donc les amants veillent-ils nuit et jour? Pourquoi donc le poète aime-t-il sa souffrance? Que demandent-ils donc tous les deux en retour? Une larme, oh mon Dieu, voilà leur récompense. Voilà pour eux le ciel, la gloire et l'éloquence, et par là le génie est semblable à l'amour. Mon premier chant est fait. Je viens de le relire. J'ai bien mal expliqué ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit un mot de ce que j'aurais dit si j'avais fait un plan une heure avant d'écrire. Je crève de dégoût, de rage et de dépit. Je crois, en vérité, que j'ai fait de l'esprit. Deux sortes de roués existent sur la terre. Un, beau comme Satan, froid comme la vipère, hautain, audacieux, plein d'imitation, ne laissant palpiter sur son cœur solitaire que l'écorce d'un homme et de la passion, faisant un manteau d'or à son ambition, corrompant sans plaisir, amoureux de lui-même, et pour s'aimer toujours, voulant toujours qu'on l'aime, regardant au soleil son ombre se mouvoir, dès qu'une source est pure et que l'on peut s'y voir, venant comme un narcisse y pencher son front blême et chercher la douleur pour s'en faire un miroir. Son idéal, c'est lui. Quoi qu'il dise ou qu'il fasse, il se regarde vivre et s'écoute parler, car il faut que demain on dise quand il passe. Cet homme que voilà, c'est Robert Lovelace. Autour de ce mot-là, le monde peut rouler. Il est l'axe du monde et lui permet d'aller. Avec lui, ni procès, ni crainte, ni scandale. Il jette un drap mouillé sur son père qui râle. Il roule en chuchotant sur la pointe du pied. Un amant plus sincère, la main plus loyale, peut sauver une main trop forte et l'effort. Ayez, mais lui, n'ayez pas peur de lui, c'est son métier. Qui pourrait se vanter d'avoir surpris son âme? L'étude de sa vie est d'en cacher le fond. On en parle, on en pleure, on en rit, et qu'en voit-on? Quelques duels oubliés, quelques soupirs de femme, quelques joyaux de prix sur une épaule infâme, quelques croix de bois noir sur un tombeau sans nom. Mais comme tout se tait et qu'il vient apparaître, Clarisse l'aperçoit et commence à souffrir. Oh, comme il est beau, brûlant, comme il s'annonce en maître. Si Clarisse s'indigne et tarde à consentir, il dira qu'il se tue, il se tuera peut-être. Mais Clarisse aime mieux le sauver et mourir. C'est le roué sans cœur, le spectre à double face, à la patte de tigre, au cerf de vautour, le roué sérieux qui n'eut jamais d'amour, méprisant la douleur comme la populace, disant au genre humain de lui laisser son jour, et qui serait César s'il n'était Lovelace. Ne lui demandez pas s'il est heureux ou non, il n'en sait rien lui-même. Il est ce qu'il doit être. Il meurt silencieux, tel que Dieu l'a fait naître. L'antilope aux yeux bleus est plus tendre peut-être que le roi des forêts, mais le lion répond qu'il n'est pas antilope, et qu'il a nom lion. Voilà l'homme d'un siècle, et l'étoile polaire sur qui les écoliers fixent leurs yeux ardents. L'homme dont Roberton fera le commentaire, qui donnera sa vie à lire à mes aux enfants, ses crimes noirciront un large bréviaire qui brûlera les mains et les cœurs de 20 ans. Quant au roué français, au don juan ordinaire, ivre, riche, joyeux, raillant l'homme de pierre, ne demandant partout qu'à trouver le vin bon, bernant Monsieur Dimanche, et disant à son père qu'il serait mieux assis pour lui faire un sermon, c'est l'ombre d'un roué qui ne vaut pas Valmont. Il y en est un plus grand, plus beau, plus poétique, que personne n'a fait, que Mozart a rêvé, qu'Hoffmann a vu passer au son de la musique, sous un éclair divin de sa nuit fantastique, admirable portrait qu'il n'a point achevé, et que de notre temps Shakespeare aurait trouvé. Un jeune homme est assis au bord d'une prairie, pensif comme l'amour, beau comme le génie. Sa maîtresse enivrée est prête à s'endormir, il vient d'avoir 20 ans, son cœur vient de s'ouvrir, rameau tremblant encore de l'arbre de la vie, tombé comme le Christ pour aimer et souffrir. Le voilà, se noyant dans des larmes de femme devant cette nature aussi belle que lui, pressant le monde entier sur son cœur qui se pâme faible, et comme le lierre ayant besoin d'autrui, et ne le cachant pas, et suspendant son âme comme un luth éolien aux lèvres de la nuit. Le voilà, demandant pourquoi son cœur soupire, jurant, les yeux en pleurs, qu'il ne désire rien, caressant sa maîtresse, et des sons de sa lyre égayant son sommeil comme un ange gardien, tendant sa coupe d'or à ceux qu'il voit sourire, voulant voir leur bonheur pour y chercher le sien. Le voilà, jeune et beau, sous le ciel de la France, déjà riche à 20 ans comme un enfouisseur, portant sur la nature un cœur plein d'espérance, aimant, aimé de tous, ouvert comme une fleur, si candide et si frais que l'ange d'innocence baiserait sur son front la beauté de son cœur. Le voilà, regardez, devinez-lui sa vie. Quel sort peut-on prédire à cet enfant du ciel? L'amour en l'approchant jure d'être éternel, le hasard pense à lui, la sainte poésie retourne en souriant sa coupe d'ambroisie sur ses cheveux plus doux et plus blonds que le miel. Ce palais, c'est le sien. Le cerf et la campagne sont à lui, la forêt, le fleuve et la montagne ont retenu son nom en écoutant l'écho. C'est à lui le village et le pâle troupeau des moines. Quand il passe et traverse un hameau, le bon ange du lieu se lève et l'accompagne. 4 filles de princes ont demandé sa main. Sachez que s'il voulait la reine pour maîtresse et 3 palais de plus, il les aurait demain. Qu'un juif deviendrait chauve à compter sa richesse et qu'il pourrait jeter sans que rien n'en paraisse les blés de ses moissons aux oiseaux du chemin. Eh bien, cet homme-là vivra dans les tavernes entre 2 charbonniers autour d'un poêle assis. La poudre noircira sa barbe et ses sourcils. Vous le verrez un jour, tremblant et les yeux ternes, venir dans son manteau dormir sous les lanternes, la face ensanglotée et les coudes noircis. Vous le verrez sauter sur l'échelle dorée pour courir dans un bouge au sortir d'un boudoir, portant sa lèvre ardente à la prostituée avant qu'à son balcon donne ni Elvire espérée dans la profonde nuit, croyant entrevoir et cesser d'agiter sa lampe et son mouchoir. Vous le verrez laquais pour une chambrière, cachant sous ses habits son valet grelottant. Vous le verrez tranquille et froid comme une pierre, pousser dans les ruisseaux le cadavre d'un père et laisser le vieillard traîner ses mains de sang sur des murs chauds encore du viol de son enfant. Que direz-vous alors? Ah, vous croirez peut-être que le monde a blessé ce cœur vaste et hautain, que c'est quelque Lara qui se sent méconnaître, que l'homme a mal jugé, qui sait ce qu'il peut être et qui, s'apercevant qu'il ne serait en vain, rend haine contre haine et dédain pour dédain. Eh bien, vous vous trompez. Jamais personne au monde n'a pensé moins que lui qui le sait oublier. Jamais il n'a frappé sans qu'on ne lui réponde. Jamais il n'a senti l'inconstance de l'onde et jamais il n'a vu se dresser sous son pied le vivace serpent de la fausse amitié. Que dis-je? Tel qu'il est, le monde l'aime encore. Il n'a perdu chez lui ni ses biens, ni son rang. Devant Dieu, devant tous, il s'assoit à son banc. Ce qu'il a fait de mal, personne ne l'ignore. On connaît son génie, on l'admire, on l'honore. Seulement, voyez-vous, cet homme, c'est Don Juan. Oui, Don Juan. Le voilà, ce nom que tout répète, ce nom mystérieux que tout l'univers prend, dont chacun vient parler et que nul ne comprend, si vaste et si puissant qu'il n'est pas de poète qui ne l'ait soulevé dans son cœur et sa tête et pour l'avoir tenté ne soit resté plus grand. Insensé que je suis, que fais-je ici moi-même? Était-ce donc mon tour de leur parler de toi, grande ombre? Et d'où viens-tu pour tomber jusqu'à moi? C'est qu'avec leurs horreurs, leurs doutes et leurs blasphèmes, pas un d'eux ne t'aimait, Don Juan. Et moi je t'aime, comme le vieux Blondel aimait son pauvre roi. Oh, qui me jettera sur ton coursier rapide? Oh, qui me prêtera le manteau voyageur pour te suivre en pleurant, candide corrupteur? Qui me déroulera cette liste homicide, cette liste d'amour, si remplie et si vide, et que ta main peuplait des oublis de ton cœur? 3000 noms charmants, 3000 noms de femmes, pas un qu'avec tes pleurs tu n'aies balbutié, et ce foyer d'amour qui dévorait ton âme, qui, lorsque tu mourus de tes veines de flamme, remonta dans l'ancien comme un ange oublié. De ces 3000 amours, pas un qui l'ait noyé. Elle t'aimait pourtant, ces filles insensées que sur ton cœur de fer tu pressas tour à tour. Le vent qui t'emportait les avait traversées. Elle t'aimait, Don Juan, ces pauvres délaissés qui couvraient de baisers l'ombre de ton amour, qui te donnaient leur vie et qui n'avaient qu'un jour. Mais toi, spectre énervé, toi, que faisais-tu d'elles? Ah, massacre et malheur! Tu les aimais aussi, toi, croyant toujours voir sur tes amours nouvelles se lever le soleil de tes nuits éternelles, te disant chaque soir « Peut-être le voici !» et t'attendant toujours, et vieillissant ainsi, demandant aux forêts, à la mer, à la plaine, aux brises du matin, à toute heure, à tout lieu, la femme de ton âme et de ton premier vœu, prenant pour fiancée un rêve, une ombre vaine, et fouillant dans le cœur d'une hécatombe humaine, prêtre désespéré, pour y chercher ton Dieu, et que voulais-tu donc? Voilà ce que le monde au bout de 300 ans demande encore tout bas, le sphinx aux yeux perçants attend qu'on lui réponde. Ils savent compter l'heure, et que leur terre est ronde, ils marchent dans le ciel, sur le bout d'un compas. Mais ce que tu voulais, ils ne le savent pas. Quelle est donc, disent-ils, cette femme inconnue qui seule mit la main au frein de son coursier, qui l'appelait toujours et qui n'est pas venue? Où l'avait-il trouvée? Où l'avait-il perdue? Et quel nœud si puissant avait su les lier que, n'ayant pu venir, il n'ait pu l'oublier? N'en était-il pas une, ou plus noble, ou plus belle, parmi tant de beautés, qui de loin ou de près, de son vague idéal, eut du moins quelques traits? Que ne le gardait-il? Qu'on nous dise laquelle? Toutes lui ressemblaient, ce n'était jamais elle, toutes lui ressemblaient, Don Juan, et tu marchais, tu ne t'es pas lassé de parcourir la terre. Ce vain fantôme à qui Dieu t'avait envoyé, tu n'en as pas brisé la forme sous ton pied. Tu n'es pas remonté comme l'aigle à son air, sans avoir sa pâture, ou comme le tonnerre dans sa nue au flanc d'or, sans avoir foudroyé. Tu n'as jamais médi de ce monde stupide qui te dévisageait d'un regard hébété. Tu l'as vu tel qu'il est dans sa difformité. Et tu montais toujours cette montagne aride, et tu suçais toujours, plus jeune et plus aride, les mamelles des reins de la réalité. Et la Vierge aux yeux bleus, sur ta souple ottomane, dans ses bras parfumés, te berçait mollement. De la fille de roi jusqu'à la paysanne, tu ne méprisais rien, même la courtisane à qui tu disputais son misérable amant. Mineur, qui dans un puits cherchait un diamant. Tu parcourais Madrid, Paris, Naples et Florence, grand seigneur au palais, voleur au carrefour, ne comptant ni l'argent, ni les nuits, ni les jours, apprenant du passant à chanter sa romance, ne demandant à Dieu pour aimer l'existence que ton large horizon et tes larges amours. Tu retrouvais partout la vérité hideuse. Jamais ce qui s'y-bas cherchait tes yeux ardents, partout l'hydre éternel qui te montrait les dents, et poursuivant toujours ta vie aventureuse, regardant sous tes pieds cette mer orageuse, tu te disais tout bas, « Ma perle est là-dedans !» Tu mourus plein d'espoir dans ta route infinie, et te souciant peu de laisser ici-bas des larmes et du sang aux traces de tes pas. Plus vaste que le ciel et plus grand que la vie, tu perdis ta beauté, ta gloire et ton génie pour un être impossible et qui n'existait pas. Et le jour que parut le convive de pierre, tu vins à sa rencontre et lui tendis la main. Tu tombas foudroyé sur ton dernier festin. Symbole merveilleux de l'homme sur la terre, cherchant de ta main gauche à soulever ton verre, abandonnant ta droite à celle du destin. Maintenant, c'est à toi, lecteur, de reconnaître dans quel gouffre sans fond peut descendre ici-bas le rêveur insensé qui voudrait d'un tel maître. Je ne dirai qu'un mot, et tu le comprendras. Ce que Don Juan aimait, Hassan l'aimait peut-être. Ce que Don Juan cherchait, Hassan n'y croyait pas.